D'abord, les derniers versets, ce maître qui mettra tout en pièces, qui donnera sa part aux hypocrites, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la doctrine des wahhabistes, formée en Arabie pour purifier les juifs et les chrétiens, ils connaissent tous ces versets. Ils disent, vous voyez bien que Jésus est d'accord, qu'on les purifie. Donc on a le droit, si un chrétien n'honore pas Allah, vous comprenez? Dans l'organisation wahhabiste, on prend les textes du Nouveau Testament. Je suis déjà tombé sur des gars comme ça, et ils voulaient me retourner. Mais naturellement, je les repère, je connais tout de suite dès qu'ils ouvrent la bouche. Et il faut avoir prié avant pour que Dieu les arrête, que le Seigneur les arrête. Mais ils ont une doctrine qui contamine à travers toute l'Europe, à travers toute l'Afrique, où ils montrent qu'on peut battre sévèrement, on peut mettre en pièces des chrétiens et des juifs. Et quand vous lisez le Coran, je l'ai, moi je le lis de temps en temps, je vais plonger dedans parce que je fréquente beaucoup les musulmans, donc il faut que je me rappelle ce qui est mis là, je vois que c'est toujours un esprit de jalousie sur Israël et les chrétiens. Pour relever leurs défauts. Ok ? Pour voir la paille qui est dans l'œil des chrétiens et des juifs, et ne pas voir la poutre dans leur propre œil. Mais en tout cas, c'est une doctrine de purification. Et dans l'islam, pour l'islam, les chrétiens ont faussé le texte quand Jésus a annoncé dans Jean chapitre 14 et chapitre 16, que Jésus a annoncé le don du paraclétos, du purificateur, du consolateur. Hein ? Le consolateur et le protecteur. Eh bien, pour eux, non, Jésus a dit Périclétos, l'homme du feu, le purificateur. Donc, Jésus avait annoncé Mohammed, le fondateur de l'islam, pour purifier les chrétiens et les juifs. Vous voyez la doctrine ? Quand vous trouvez en face de quelqu'un comme ça, qui est possédé des esprits de Satan pour s'attaquer aux chrétiens et aux juifs, je vous garantis que vous pouvez passer des nuits à prier. Parce que ce n'est pas des petits démons. Ce n'est pas des petits démons. C'est quelque chose de costaud. Bon, maintenant, je dis ça parce que ce sont des textes qui sont utilisés par toute cette tendance, et qui est diabolique pour moi, et qui persécute les chrétiens à beaucoup de places. Et ici en Europe, on ne les voit pas, on voit pas arriver, mais ça se prépare bien. Moi, dans mes visites, parfois, je suis contrecarré par des gaillards pareils. Enfin, avec l'aide de Dieu, souvent, et plus souvent que, c'est eux qui reculent. Regardons ce que Jésus a dit pour nous, nous chrétiens. C'est que nous sommes au service de la nourriture. Nous sommes au service de ceux qui ont faim. Or, vous savez très bien que dans Amos, au chapitre 8, il viendra un temps, à la fin des temps, où les beaux jeunes gens et belles jeunes filles auront faim et soif. Non pas de pain, non pas d'eau, mais de la parole de Dieu. Vous connaissez ce passage dans Amos, hein? Bon, évidemment, c'est très important. C'est qu'il y a une détresse humaine qui se prépare sur la terre au point que même si vous ne le voyez pas, beaucoup d'hommes ont besoin de Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus, vous devez savoir qu'il y a des gens malheureux dans notre société, des gens en déprime, en détresse, et qui se tournent vers la sorcellerie, vers les médiums, vers des tas de choses, vers le sexe. Il faut savoir qu'ils sont malheureux, et il faut leur adresser la parole. Et nous, chrétiens, que faisons-nous? Regardez bien. Quel est donc le serviteur fidèle, verset 45, que son maître établit sur ses jambes pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Heureux, c'est une béatitude. C'est comme dans Matthieu, n'est-ce pas, au chapitre 5. Il y en a dans l'Apocalypse aussi, des béatitudes, heureux, etc. Bon, pratiquement, vous voyez que nous avons une tâche extrêmement importante. Il faut donner à manger aux gens. C'était peut-être pure folie pour un certain nombre de chrétiens quand nous avons reçu à la maison des tas de réfugiés pendant des dizaines d'années. Mais ces réfugiés qui venaient de partout, ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont mangé à table, ils ont prié, ils sont venus au culte, ils ont reçu une Bible, etc. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est pas nous de le savoir. Il y en a qui sont devenus chrétiens, d'autres pas. Mais ce qu'il y a, Dieu a présenté devant nous des gens qui ont la même valeur que nous à ses yeux. La même valeur. Ils ne sont pas nés par hasard, et ils ne sont pas nés pour l'enfer. Ils sont nés pour être sauvés. Et Jésus sur la croix est mort pour eux, son sang a coulé à la croix, et il est ressuscité pour eux. Donc nous avons une fonction de serviteur heureux, fidèle et prudent. J'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que, quand par exemple, le groupe ici, il y a dans le groupe des jeunes, etc., qui commencent leur vie, sont convertis. Je m'adresse à vous, les jeunes, surtout, mais ça peut être quelqu'un de 50, 60 ans, n'importe aussi, hein, 70 ans. Si vous êtes jeune de cœur, vous ne pouvez pas passer votre temps à ronronner alentour de vous-même et de Jésus. Jésus vous engage à son service tous les jours. Jésus vous engage à donner la nourriture aux humains. Hein? Son amour, sa parole, sa sainteté. Et surtout, leur présenter le sacrifice à la croix. Parce que qu'est-ce qu'a fait Paul ? Il a donné sa vie pour l'évangile. Tous les apôtres, c'est quoi l'évangile ? On va lire 1 Corinthiens 15. Il faut résumer les choses pour les avoir bien claires dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme. Pourquoi tous les chrétiens des premiers siècles ont-ils donné leur vie ? Pour qui ? Et aujourd'hui, pourquoi des gens ont eu la vocation d'être missionnaires ? Pourquoi des gens ont servi Christ ? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont des palettes de calendriers qui vont se casser la tête à distribuer ? On a souvent fait de la distribution dans notre petite église aussi. On sait très bien qu'il faut transpirer. Hein ? Et les trottoirs, c'est long, hein, dans les villes et les localités, et à vélo. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Ben, il faut penser qu'il y a un essentiel à annoncer aux gens. L'essentiel, c'est ceci. 1 Corinthiens 15, c'est quoi l'évangile ? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc il y a déjà des falsifications à cette époque-là de l'évangile. Il faut garder bien le message. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il a apparu à Pierre, puis aux 12, etc., aux 500 frères, ensuite à Jacques, aux apôtres, etc. C'est ça l'évangile. Jésus mort pour nos péchés selon les Écritures, ressuscité selon les Écritures. Prenons Romains chapitre 6. Il parle ici à des chrétiens. Vous imaginez qu'on est au début du christianisme et déjà, ça cafouille, on perd l'identité, on perd le fil conducteur, la visibilité. Et il faut retrouver toujours la visibilité. Et c'est pour ça qu'après, quand on a la visibilité, il n'y a plus que l'une chose, s'engager. Hein ? Alors, verset 3, chapitre 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Alors, je pourrais lire tout le texte encore jusqu'au verset 14, mais il y a quelque chose de fondamental, c'est que ce baptême en sa mort, qu'est-ce que ça veut dire ? Des fois, c'est que des idées dans la tête, même des chrétiens. Regardez dans Marc, au chapitre 10. Jésus lui-même explique bien ce que c'est que le baptême en sa mort. Marc, chapitre 10, verset 38. Juste avant, Jacques et Jean se sont approchés de Jésus pour avoir un trône de gloire à côté de lui. Vous voyez ça, hein ? C'est pas neuf sous le soleil, hein ? Depuis 21 siècles, dans le christianisme, il y en a eu des trônes, hein ? Il y en a encore à Rome et autre part, hein ? Parfois même chez les protestants, etc. Alors, abat les trônes. Il n'y en a qu'un qui compte, c'est celui du Seigneur Jésus. Alors, regardez bien au verset 38, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Donc toute la colère de Dieu pour tous les péchés et les offenses que les hommes aiment faire, hein, parce qu'il n'y a pas que les péchés inconscients, il y a beaucoup de choses que les hommes aiment faire, en mal. volontairement. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Le baptême dont Jésus doit être baptisé, c'est la croix. C'est la croix. Le vrai baptême, le seul baptême, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est à ce baptême-là qu'on s'identifie. Regardez bien, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Or, on ne voit pas Jésus qui va à la rivière après. On ne voit pas Jésus qui va dans un baptistère. C'est à la croix, le baptême. Le baptême est l'image de l'ensevelissement de la mort et puis de la sortie de la nouvelle vie. Pourquoi ? Parce que Jésus, à la mort, a pris toute la colère de Dieu pour toutes les offenses faites sur lui. Il a bu la coupe. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a porté tout le péché, cette domination qui est sur l'être humain, qui le condamne à être orgueilleux, qui le pousse à s'opposer à Dieu, à être malhonnête avec Dieu. Cette puissance est horrible sur l'humanité. Même ceux qui signent des accords de paix les trahissent. Même ceux qui font des lois les trahissent. Ils trouvent toujours les trucs alentours pour les contourner. Même un chrétien qui promet quelque chose, il ne le tient pas. Pourquoi ? C'est pourquoi Dieu a dit de ne pas prêter de serment, de ne pas jurer, aucunement. Alors, parce que le péché est une puissance. Et cette puissance, Jésus la prend sur lui. Et il faut que quand il meurt, la puissance soit crucifiée. Mon péché était crucifié à la croix. La puissance qui me sépare de Dieu, qui est venue au moment où Adam et Ève ont péché, et qui est sur toute l'humanité, cette puissance était crucifiée. Donc quand Jésus meurt sur la croix, la puissance de l'amour de Christ a vaincu la puissance du péché. L'approbation et la bénédiction du Père ont vaincu, ont eu la victoire sur la puissance du péché. Et quand Dieu peut donner ensuite le pardon à ceux qui acceptent Jésus, qui acceptent que leur péché soit crucifié, quand Jésus est mort et ressuscité, il peut conférer le Saint-Esprit au nom du Père des cieux. Et celui qui accepte Jésus crucifié pour son péché est digne de recevoir le Saint-Esprit s'il a accepté Jésus. Mais il doit rentrer dans le baptême de Jésus, c'est-à-dire mourir tous les jours au péché et vivre selon le Saint-Esprit. Il doit rentrer dans le baptême. Le baptême, c'est tous les jours. C'est une identité propre aux chrétiens. Je suis crucifié en Christ, je suis ressuscité en Christ. Mon péché est crucifié. C'est fort important. Donc la nourriture à donner à tous les gens du monde, c'est cette nourriture-là. C'est la seule nourriture qui peut permettre à des hommes d'être sauvés, de ne pas aller en enfer. J'ai eu la fièvre typhoïde à 4 ans, 4 ans et demi. Il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas d'hôpitaux. Mes parents étaient cultivateurs. J'étais dans mon lit, en train de mourir. J'ai vu l'enfer, moi. Je m'en rappelle. Je me suis rendu compte que j'étais séparé de Dieu, que rien de bon ne m'attendait. Et j'ai réalisé ça et j'ai dit dans mon cœur, si quelqu'un connaissait Dieu à côté de moi et qu'il priait, je m'en sortirais. Dieu viendrait à mon secours. Je ne le connais pas, mais dans les heures, dans les moments où je réfléchissais, je me suis dit, je vais chercher Dieu. Si je m'en sors, je vais chercher Dieu. Toute ma vie, je n'ai pas besoin des autres pour chercher Dieu, je vais le chercher. C'est fini, je ne vivrai pas pour vivre. Je vivrai pour être avec Dieu. Parce que autrement, je connaîtrai l'enfer. Que je meure à 15 ans, à 20 ans, à 60 ans, à 90 ans, ce que j'ai vu là est trop fort, trop horrible, je ne veux pas ça. Et le lendemain, j'étais guéri. Ça m'a touché profondément dans ma vie. Ça m'a touché profondément dans ma vie. Que nous ne sommes pas nés en étant en communion avec Dieu, nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas nés sauvés, nous sommes nés condamnés, séparés. Pas de notre faute. Demandez à Adam et Ève et à Satan pourquoi. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu propose la rédemption. Dieu propose de nous sauver de cette damnation. Dites-le, parce que tout à l'heure, la Bénédicte, notre fille me dit, Daniel, un ami qui a un an de moins que moi est mort du cancer. On a un très grand jardin de 2,5 hectares, et je prête des parcelles à chacun pour venir faire gratuitement leur jardin. Parce qu'avant tout, le jardin servait pour les réfugiés qu'on avait chez nous. Il fallait nourrir tout ce monde-là. On ne pouvait pas aller au magasin pour nourrir tout ce monde qui défilait chez nous. Donc, mais maintenant, on en a moins besoin. Donc, il y a des gens, on leur prête, et tout est en bio, et pratiquement, enfin, sans prétention, hein. Et on n'a pas cherché à dire qu'il était bio, tout le monde. Mais il l'est réellement. Et pratiquement, c'était un des braves qui venait dans le jardin, qui est catholique, à qui j'ai donné des livres, à qui j'ai pu prier parfois dans le champ avec. J'ai encore été le voir avant de partir. Et j'espère qu'il est auprès du Seigneur. Je l'espère. Parce qu'il y a tellement de faux enseignements dans l'Église catholique, j'espère que l'Esprit Saint venu en est à sa faiblesse pour l'éclairer. Voilà. Mais ça fait souffrir de savoir que des tas d'êtres humains vont aller dans les angoisses de la mort, dans cette chose-là qui est horrible. Lisez le psaume 116, et ce n'est pas marrant du tout. 116. Combien de fois j'ai assisté des gens à la mort, qui n'étaient pas prêts, qui étaient dans des angoisses. Ah, t'es là, heureusement que t'es là. Je me mettais à genoux. Je restais des heures à genoux à prier à côté. Tiens-moi la main. Ne me laisse pas tout seul. Je priais pour que le Saint-Esprit les éclaire, qu'ils baissent les armes, qu'ils se rendent à Dieu pendant qu'il est encore temps, et que par la puissance du Saint-Esprit, ils voient clair. Mon père qui était contre Dieu, 3 heures avant sa mort, je suis arrivé tout près de lui, et quand je l'ai vu ouvrir les yeux et regarder au plafond et être horrifié, j'ai dit, tu vois l'enfer, papa? Il m'a dit oui. Mais moi, je me rappelais de ce que j'avais vu à 4 ans. Hein. Je savais que c'était sérieux. J'ai couru à la cuisine chercher la Bible, que je lui ai donnée, qu'il n'avait jamais lue. En tout cas, il ne m'a jamais dit. Et j'ai pensé, psaume 116 tout de suite. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai de toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à détresse et à douleur. Ça, je l'ai connu à 4 ans, moi. C'est exactement ce que c'est. J'ai plus peur de la mort maintenant. Je l'ai risqué souvent pour des autres. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Vous avez vu? L'acte responsable. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. Vous avez vu? Quand le pavillon de l'orgueil, là, de la prétention de vivre sans lui est tombé, garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Souvent, quand on chantait un chant à côté de mon père et qu'on priait, il se mettait à pleurer, on ne savait pas pourquoi. Et il ne voulait jamais rien dire. Mes yeux des larmes. Il se savait séparé éternellement de Dieu. Il était tellement empêtré dans son péché, dans son opposition, qu'il ne savait pas comment en sortir. Il était prisonnier, captif du péché. Alors, regardez ce qui se passe dans le cœur d'un homme quand il a crié vers Dieu, que Dieu a répondu. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais, dans mon angoisse, c'est tout mes trompeurs. Toujours, mes parents m'ont appris à me méfier de tout le monde, pas faire confiance. Il y avait eu la guerre, il y avait eu tas de déceptions, tas de misères. Eh bien, pratiquement, je dis, papa, tu m'as toujours enseigné ça, mais toi, t'es un homme aussi. T'es aussi trompeur. Accepte que t'es un homme. Et que t'es pas à part. Tu demandes pardon à Dieu pour m'avoir enseigné que tout homme est trompeur. Tu l'es avec. T'as regardé la paille dans les yeux des autres et pas la poutre dans le tien. Il m'a dit oui. Alors, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel. La coupe de délivrance, c'est Jésus, hein? La coupe de la colère qui est devenue la coupe de la délivrance. Voilà, la première nourriture, c'est d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour sauver le pécheur. Si vous ne le faites pas, les amis, vous n'êtes pas un heureux fidèle, un heureux serviteur fidèle, persévérant, etc. C'est extrêmement dangereux d'être un chrétien pour soi. Prenons Matthieu 25. Un chrétien pour soi, on va voir qu'il y en a un, ici dans Matthieu 25, on va voir après. Prenons d'abord la parabole de l'huile avec des lampes. Vous la connaissez tous, mais enfin on va quand même la lire. Si quelqu'un veut la lire à forte voix, versets 1 à 13.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrée avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais ils répondirent : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.
Donc veillez, c'est tout simplement dire : examine-toi, sois sur tes gardes, ne t'illusionne pas sur toi-même. Et de lucidité sur ton comportement envers moi. Examine-toi. Examen de conscience chez le chrétien, c'est quelque chose de capital. C'est là où on forge les outils de l'honnêteté. Si on n'agit que sentimentalement, ça n'ira jamais. On va toujours se tromper. Il faut agir et savoir reconnaître ce qu'on a raté, tout ce qui ne va pas, et demander pardon à Dieu. Il faut se laisser sous le sang de Christ et être purifié. Vous voyez bien qu'au départ, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, déjà ça se produit. On est au début du christianisme. Ils ont mis en oubli la purification des péchés. Vous imaginez que c'est une maladie chronique permanente qui se répète, qui revient, comme une grippe, comme un virus. Et c'est un défaut de ne pas s'examiner soi-même pour être responsable devant le Seigneur. Et vous voyez ici, les vierges folles ont une lampe. Je vais vous dire, pour moi, je pense que c'est la Bible. Mais ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, ils n'obéissent pas et ils n'ont pas de lumière. Ils vivent charnellement. Charnellement. Et ils aiment bien vivre charnellement, il n'y a pas de problème pour eux. Et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Parce que c'est une situation qui leur semble avantageuse. Mais je vous lis un autre passage dans Matthieu, au verset 8, 11, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Les fils des ténèbres du royaume seront jetés dans les ténèbres. Ils s'y sont jetés eux-mêmes. Ils avaient une Bible, ils ne se laissaient pas conduire par le Saint-Esprit, ils vivaient selon la chair, et la Bible ne dégageait aucune direction pour eux. C'était qu'un paravent et un masque. La chrétienté ne doit pas se retirer devant la Bible, ou derrière une cathédrale, ou derrière des rites. Elle doit vivre la Bible, elle doit vivre la parole, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, quand le chrétien vit la parole, il y a une lumière dans son cœur qui se dégage. Quelle est cette lumière? Deuxième aux Corinthiens, chapitre 4. Cette lumière peut abonder infiniment dans le cœur d'un chrétien, faut-il qu'il comprenne sa vocation parfaitement. Au chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ Seigneur que nous prêchons. Donc, 1 Corinthiens 15, 1 à 5, clairement c'est l'évangile. C'est Jésus-Christ Seigneur que nous prêchons, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc serviteurs, regardez Matthieu 20, 24, le serviteur inutile qui apporte la nourriture. Regardez, c'est le même état d'esprit chez tous les apôtres, avec des autres mots. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, ça c'est Genèse 1, 3, parce que dans Genèse 1, 3, Dieu a dit que la lumière brille dans les ténèbres, c'est pas le verbe bara, c'est pas créer, c'est une lumière incréée. Parce que la lumière créée, c'est les étoiles, la lune et le soleil, c'est au verset 14 et 21 du chapitre 1 de Genèse. J'avais remarqué ça chez Jean Chrysostome, qui disait que c'était le Christ qui était éternellement la lumière du monde. Et puis quand je suis tombé plus tard, beaucoup plus tard sur ce texte, je me suis dit, oui, Jean Chrysostome, je peux m'en passer. Paul, qui est assisté du Saint-Esprit, le dit. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand je regarde à Jésus, grâce à la lumière que Dieu donne en mon cœur, la foi, quand je regarde Jésus, je vois la gloire de Dieu et j'apprends à connaître Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le resplendissement de sa gloire, dit l'Épître aux Hébreux. L'empreinte de sa substance. Pourquoi ? Ça m'apparaît comme tel quand Dieu met sa lumière sur ma conscience. Quand par sa grâce, il m'éclaire sur Jésus. Et quand cette lumière sur Jésus qui me fait connaître Dieu est en moi, regardez ce qui se passe. Verset 7. En application, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça veut dire que ce n'est pas un vase de cristal, parce que je ne suis pas assez parfait pour que du cristal, ça viendra un jour. Quand je serai devant le Seigneur, il aura tout fondu. Hein? Mais en attendant, je sais un gros pot, hein? Une terre cuite. On pourrait faire de la choucroute dedans. Alors, pratiquement ce qui se passe, la lumière de Dieu, de Christ, est dedans. Alors moi, comment je peux faire passer Christ? Il faut qu'elle soit vachement puissante, cette lumière. Je suis un missionnaire opaque, dans lequel le Seigneur brille. Hein? Tout chrétien est un pot, un vase de terre, en terre cuite, dans lequel cette grande puissance, cette lumière est là, mais pour que ça ne soit pas attribué à moi, que je n'en tire pas des gloires, ça ne passera pas à travers moi à cause de moi. Ça passera à travers moi à cause de la lumière. Et comment ? Mais pensez à Gédéon, la bataille avec Gédéon, 22 000 hommes, puis 600, puis 300, pas d'épée. Pourtant, en écrit, ils arrivent sur l'ennemi, épée de Gédéon, épée de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont qu'un vase avec un flambeau dedans. Quand ils arrivent et qu'ils cassent le vase, le flambeau est là. Et les autres s'entretuent et se tuent. Pour nous chrétiens, nous sommes dans le même état, dans la bataille contre les ténèbres sur cette terre, notre peau doit casser, c'est nous. On doit donner notre vie. On doit donner notre vie. C'est nous le pot pour que la lumière de Christ soit donnée aux hommes. Vous ne pouvez pas vivre pour vous-même. Votre pot doit être cassé. Mon pot doit être cassé. C'est pour ça que Paul a dit, je suis crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vous souhaite à tous d'être des pots cassés pour que la lumière explose dans la figure des autres et que la gloire en revienne à Dieu. Alors, reprenons la parabole de Matthieu. Je trouve passionnant la vocation que Dieu nous donne, que Jésus nous donne, passionnante. Mais souvent, souvent, nous passons à côté parce que on dirait qu'on ne veut pas comprendre. Ça nous arrange d'être mou, d'être tiède, ratamou. Je ne dis pas qu'il faut être fanatique, c'est pas ça. Mais quand Paul dit qu'il faut être zélé, qu'il faut avoir, Éphésiens 6, les sandales du zèle, c'est quand même autre chose. Et aujourd'hui, dans notre Europe, eh bien, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles avant que Jésus revienne. Matthieu 25. Les hommes et les femmes qui sont avec une Bible et qui n'ont pas de lumière, c'est parce que la lumière de Christ ne brille pas dans leur vie. C'est parce qu'ils ne voient pas sur la face de Jésus la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu n'aura pas donné la grâce de le comprendre? Ils ont peut-être reçu et puis ils ont refusé la lumière. Ou ils se sont dit, oulala, il faut falloir que je change tout. Il va falloir que je sois un vase brisé. Il va falloir que je ne vive plus pour moi-même. Il va falloir que je vive pour Christ. Oulala. Non, moi je recule. Je me rappelle très bien que quand j'ai compris que Jésus-Christ était vivant, qu'il m'a demandé de se donner à lui, je me suis battu 3 mois avec lui. Je n'avais pas envie de céder. Hein. Je savais très bien ce qui m'attendait. Et encore, ça s'est répété après. Parce que la chair revient à la charge. Hein. On croit qu'on s'est engagé, ça dure un certain temps, puis on a repris ses vilaines habitudes, et ça y est, on est de nouveau sans la lumière. On l'a laissé de côté. Donc les vierges folles, c'est la folie de se passer de Christ, c'est la folie de ne pas se laisser conduire par Christ. L'autre, pour les sages, c'est celles qui obéissent. C'est celles qui aiment le Christ et qui portent la lumière dans leur vie et qui acceptent de donner leur vie et d'être brisées. Forcément, quand on sert le Seigneur, on est brisé. On ne fera pas tous les caprices et tout ce qu'on veut. On abandonnera les projets qu'on a pour les projets de Dieu. Donc, chaque chrétien est un missionnaire. Chaque chrétien n'a pas seulement la foi, il est appelé à marcher par la foi. Chaque chrétien, pas seulement monsieur le pasteur ou monsieur l'ancien dans l'église, ou monsieur le missionnaire, ou madame la missionnaire. Chaque chrétien doit apprendre à marcher par la foi, pas seulement la foi. Les amis, c'est ça, avec les vierges folles et sages. Regardons l'autre parabole, celle des talents. Elle est plus longue. Si quelqu'un veut se dépêcher de lire, ça commence au verset 14.
Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Merci. Alors, le cas le plus compliqué à expliquer, c'est bien sûr, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Verset 25. Donc, celui qui a reçu un talent, Il a appris que Jésus était mort pour ses péchés, qu'il est ressuscité. Oui, il croit ça. Mais il n'a rien fait pour lui. Il y a une grande peinture en Allemagne dans une cathédrale où on voit le Christ qui se penche et qui regarde. Il y a une phrase en allemand. « Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Pour interpeller les gens. Bon. À partir du moment où on répond, on ne va pas être le même si on accepte la question. C'est comme ça qu'un jour, le marquis Isendorf de Bohème est passé devant. Il regardait ça, mais c'était un coureur de femmes, un bonhomme plein de fric. Hein, et tout d'un coup, une petite gitane qui vient à côté qui lui demande « Mais, monsieur, je ne sais pas lire, qu'est-ce qu'il veut dire Jésus ?» Alors il lui explique, il lui lit la phrase, il lui dit « Mais, regarde, Jésus a dit, regarde, voilà ce que j'ai fait pour toi. » Et puis, qu'est-ce qu'il a encore dit ? « Eh bien, qu'as-tu fait pour moi ?» Alors la petite fille pose, regarde le monsieur dans les yeux, « Et toi, monsieur, qu'est-ce que tu as fait pour Jésus ?» Ce brave homme est rentré chez lui, cet homme qui était corrompu et vicieux jusqu'à l'os, hein, et rentré chez lui, il s'est converti. Puis il a accueilli tous les réfugiés, persécutés, tous ceux qui fuyaient de la persécution des catholiques, et même après des protestants, en Bohême. Il avait des centaines d'hectares, il les a tous accueillis là, des milliers de gens. Et puis c'est là qu'il y a eu les frères moraves, les champs, les chrétiens quoi. Et puis qui sont partis après en Pologne, sur le Danube, en Bulgarie, en Ukraine, qui ont fait des milliers de convertis. Et qu'est-ce qu'ils avaient compris ces gens-là ? Ils avaient appris à s'aimer, appris ensemble. Ils ont décrété qu'à tour de rôle, par équipe, ils feraient un jeûne. Le jeûne et la prière pendant 100 ans. Ça a donné du fruit, n'est-ce pas ? 100 ans. Ils n'ont pas tapé pour 2 jours, eux. 3 jours ou 2 semaines. Alors, on va aller dans Jérémie. Si vous redonnez un cas, voilà quelqu'un qui reçoit le talent, il aurait pu dire, ma gamine, arrête-toi de m'embêter avec ton Jésus, et puis je continue. Il y en a plein qui font ça. Ça, c'est celui-là qui enterre le talent. Il a quand même eu le message. Il n'en fait rien. Ben, regardons. Regardons. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Oula. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc clairement, ces paraboles-là sont faites pour bien dire, je vous sonde, je vous examine. Alors examinez-vous avant que je vienne faire votre examen. Alors, c'est quand même gentil. Un professeur qui pose déjà les questions, qui a donné les réponses. Et puis quand il y a l'examen 3 jours après, on n'a plus qu'à se présenter et donner les bonnes réponses. Mais Jésus a fait ça, Dieu a fait ça. Et il y en a encore qui finissent par donner une mauvaise réponse. Hein ? Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. C'est ça qu'avait compris le marquis Isendorf. Il a un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi, qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Donc c'est le cas de celui qui a un talent qu'il n'enterre. Regardez bien. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre car ils abandonnent la source d'eau vive. Non, le bonhomme ou la femme qui a entendu l'évangile et qui l'enterre, vous avez là une explication. Il a abandonné la source d'eau vive. Vous voyez bien que la Samaritaine, elle a été vers la source d'eau vive. Elle a été chercher tout le village. Elle avait le choix de dire, il me raconte des blagues, je rentre, et puis c'est tout. Vous avez ici une image clairement de l'enterrement de quelqu'un, de son propre enterrement, de sa propre condamnation. Et si c'est quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu, vous avez juste l'image au-dessus. Dans Jérémie 17, verset 5. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc ça correspond à la personne qui a le talent qui l'enterre. « Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. » « Béni soit l'homme. » Alors là, vous avez l'image de ceux qui ont 2 talents, qui en gagnent 2 autres, 3 talents, qui en gagnent 3 autres, 5 talents, etc., qui multiplient les bénédictions. Verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage vert reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » Dans le même chapitre, vous avez les deux tableaux. Dans les paraboles, un parabole de Matthieu 25, vous avez les deux tableaux. Les deux tableaux sont clairs. Où on saisit la vie éternelle que Jésus nous donne, et on vit avec Christ, et on avance. Et il va, au fur et à mesure que nous obéissons, donner des bénédictions pour la multiplication des grâces sur tous les autres. Et par conséquent, sur nous-mêmes aussi. Et si nous refusons, nous nous privons de toutes les grâces et nous finissons séparés de Dieu. Prenons l'autre parabole de Matthieu, Matthieu 25, la dernière parabole, parce que le temps vient court, c'est long pour vous. Regardez bien, lorsque le Fils de l'homme, verset 31, viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Si vous faites référence à Ézéchiel 34, vous pouvez vous instruire clairement de ce qui est dit. Mais parce que l'Ancien Testament explique, le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'herméneutique de l'Ancien Testament. Il faut toujours aller voir des deux côtés. Et pratiquement, qu'est-ce que vous allez voir? C'est qu'il y a des gens qui... On va aller un peu plus loin, plus vite, puisque le temps est trop court. Verset 37, les justes répondront au Seigneur, « Quand avons-nous vu avoir faim ? T'avons-nous vu ? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif ? T'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger ? T'avons-nous recueilli ou nu ? T'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade, en prison, sommes-nous allés vers toi ?» Alors, que répond le roi ? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez vu ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Tout le récit tourne alentour de l'engagement envers le prochain. Bon, on pourrait dire, il y a une autre interprétation, que dans les tribulations, il y aura des gens en Israël qui vont être tellement malheureux, tellement opprimés sous l'Antichrist, ils auront besoin d'être secourus. Mais ça, c'est une autre interprétation qui court parfois dans des livres évangéliques. Mais ici, de manière générale, vous ne pensez pas que sur la terre, il y a de ça 20 ans, il y avait déjà une personne apatride sur 30 sur la terre. Cette maladie a-t-elle existé à ce point-là avant? Avec la montée des eaux, la fonte des continents, la fonte des glaciers, etc., on prévoit 63 mètres d'eau en plus. Mais rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? On prévoit scientifiquement 1,6 milliard de personnes réfugiées qui vont aller où? Qui peut arrêter ça? C'est annoncé que l'humanité est dans les drames à cause de l'iniquité, de l'injustice. Le péché est en train de dérégler l'univers. Et il y a des réfugiés, et ces réfugiés, dans ceux-là, il y a des hommes et des femmes qui vont se tourner vers Christ. C'est bien mis. À l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans tous ces réfugiés-là, il y en a qui sont programmés dans les desseins éternels de Dieu pour être des enfants de Dieu. Dans tous ces gens secoués qui ne savent plus où ils en sont, beaucoup se posent des questions. Il y a énormément de gens qui vont avoir besoin de Christ. Énormément de gens dans les années qui viennent et déjà maintenant. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre considération de eux? Ou est-ce qu'on va faire comme avant la guerre? On va fermer les yeux, Hitler mettra tous les juifs au four. Regardez ce qu'on a fait, on a déjà donné 2 millions pour laisser tous les chrétiens de Syrie et d'Irak. Et vous savez où ils sont maintenant? Il a reçu les millions, les centaines de millions, si pas des milliards de l'Europe. Eh bien, pratiquement, dans les camps, il les sort, il les met dans chaque village et les fait travailler gratuitement comme des esclaves dans toutes les fabriques, chez tous les paysans. Pendant ce temps-là, il prend ses hommes pour faire la guerre et descend vers Israël. C'est ça son programme. Alors, nous, l'Europe, On s'est démis, l'Europe pseudo-chrétienne, on s'est démis de l'accueil des malheureux. Et on les a mis dans les mains d'un monstre, d'un intégriste. Et là-dedans, il y a plein de chrétiens. Nous avons eu le témoignage d'un homme qui était musulman, qui servait à manger dans les camps, qui ne veut plus être musulman. Il devait poser la question du prénom à chacun. Si c'est un prénom chrétien, il ne devait pas donner à manger. Pourtant, l'Europe a donné l'argent. Alors, les petits que Jésus aime, où ils sont? Il y en a des millions actuellement. C'est notre époque, les amis. Cette parabole-là nous concerne. Elle nous concerne. Le jour, mes amis, que vous aurez des malheureux de ce genre qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de votre table, qui ont besoin de votre lit, Jésus vous regarde et va voir si vous êtes à son image. Si vous êtes à l'image de Jésus ou si vous êtes à l'image de l'église de Laodicée. Vous savez, l'église de Laodicée, je vous vomis. Moi, je voulais dire ça, pourquoi? Parce que je voudrais bien. Ce que je veux, c'est secouer. Il y a plein de jeunes adultes. Ils ne doivent pas vouloir concilier des inconciliables. Il faut avancer avec Christ. Or, l'inconciliable, c'est ceci. Comment être bourgeois? Comment être bourgeois, bien dans mes pantoufles, devant ma TV, et être chrétien? Ça, c'est inconciliable. Dans le chemin de Christ, c'est inconciliable. On peut bien être de temps en temps dans le fauteuil, on peut bien être de temps en temps dans ses pantoufles. Mais quand ça devient une doctrine, une habitude mentale, il n'y a plus rien pour Christ. C'est l'église de Laodicée. C'est dur. Mais croyez bien, je suis dur avec moi-même. Ma femme aussi. Elle trime beaucoup. On a toujours pris ce chemin-là. Pourquoi? Pas parce qu'on est meilleur que vous. Pas parce qu'on veut être meilleur que vous. Pas parce qu'on veut être meilleur que n'importe qui. Parce qu'on croit que Jésus le ferait. Si il revient maintenant, il le fait. Et il me le montre que je dois le faire. Et comme il attend... Il attend, il est bientôt là, il est derrière la porte, comme l'église de l'Odyssée. Écoute ma voix. Quand tu auras écouté ma voix, ouvre-moi la porte. J'entrerai, je mangerai avec toi, tu mangeras avec moi. Écoute ma voix. Amen.